Ce dont je vais vous parler cet après-midi, là, c'est de ce qui a écrit sur le transparent, c'est-à-dire des catégories pour décrire et comprendre l'action du professeur. Et je vais essayer de vous dire quelques mots d'abord d'introduction pour qu'on soit assez clair sur mon objectif. Donc la première idée... Ça va aller. La première idée donc consiste à montrer, par rapport à ce que disait Jean-Louis Derouet tout à l'heure, qu'il s'agit d'une approche en didactique, et donc une approche en didactique qui... Alors pourquoi est-ce que c'est une approche en didactique? C'est parce qu'elle est centrée sur le contenu de l'action. C'est-à-dire l'idée, c'est que les actions ont des contenus, et qu'on peut centrer l'analyse de l'action sur le contenu de l'action. Alors j'en dirai un peu plus tout au long de ce que je vais raconter. Alors un deuxième point, c'est le suivant, c'est l'idée, c'est de lier ou d'intégrer les didactiques au sein des sciences de l'homme et de la société. Et c'est-à-dire que on pourrait imaginer, par exemple, qu'on parle de la didactique, non pas pour dire qu'il n'existe qu'une seule didactique, mais pour dire la didactique comme la sociologie ou la psychologie ou la biologie, avec l'idée que effectivement il peut y avoir des spécificités, donc des didactiques, mais qu'il y a au point de départ une sorte de science, ou en tous les cas de science en devenir, qui s'appelle la didactique. Et un troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est que l'exposé que je vais faire là aujourd'hui est vraiment un exposé théorique, c'est-à-dire que les aspects méthodologiques ou les aspects empiriques sur lesquels la théorie que je vais présenter est assise, ces aspects-là ne vont pas être développés aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps de faire l'ensemble et j'ai fait un choix. Donc. Alors, spéculation, ai-je écrit, au sens du philosophe des sciences Jan Hacking, qui a écrit un livre tout à fait intéressant en 1983, qui a été traduit en français en 1989, qui s'appelle « Concevoir et expérimenter », et qui montre que selon lui, dans toute théorie, il y a un réseau d'énoncés essentiellement qualitatifs, et ce réseau d'énoncés essentiellement qualitatifs contraint le type d'analyse qui est fait ensuite, le type de modèle, par exemple, qui est construit. Donc ces spéculations en ce sens-là, j'espère pas trop au sens péjoratif du terme spéculation, mais dans ce sens de système théorique duquel on doit extraire ensuite des modèles, ou on peut extraire des modèles. Je terminerai l'exposé par une petite analyse un peu en marge de l'exposé, qui sera une analyse de type épistémologique, où j'essaierai de montrer finalement ce système de catégories sous un certain angle, c'est-à-dire j'essaierai de montrer comment je conçois, d'un point de vue épistémologique, les catégories que j'aurai explicitées dans l'exposé. Donc, pour vous situer un petit peu l'ensemble de l'exposé, qui sans cela risquerait d'être peut-être encore plus énigmatique, je vais donc vous donner une vue d'ensemble qui est la suivante. La théorisation que j'essaie de construire avec d'autres, évidemment c'est un travail collectif, elle a cette tête-là. L'idée, c'est que le professeur et les élèves, dans un système didactique, sont contraints par une pluralité de détermination. Et cette pluralité de détermination, je la vois, enfin on peut la voir à trois niveaux. Vous voyez qu'il y a le mot « jeu » qui est récurrent, là, je m'expliquerai dans la suite. Mais enfin, en première approximation, on peut dire que on peut regarder le travail d'un professeur et des élèves dans la classe, lorsque cette action consiste, l'action du professeur en particulier, consiste à faire jouer le jeu. On peut s'intéresser à la manière dont le professeur construit le jeu qui va être produit dans la classe. Donc c'est la deuxième strate, si vous voulez, construire le jeu. Et puis on peut s'intéresser à une troisième strate que j'ai appelée les déterminations du jeu, c'est-à-dire une strate qui, en quelque sorte, est réservée à la... d'un point de vue de la recherche, est réservée à l'étude de la surdétermination de l'action. Et donc là, j'en dirai quelques mots. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est surtout me centrer sur cet aspect-là, l'aspect faire jouer le jeu, essayer de montrer un petit peu comment je considère, avec d'autres, et j'essaie de concevoir, une analyse de l'action in situ, en étant bien conscient que cette manière de faire est parcellaire et qu'elle doit nécessairement s'accompagner, pour élucider l'action, d'autres dimensions, entre autres celles que j'indique ici. Alors, ma première idée, ça va porter, donc, ma première réflexion va porter sur ce que j'ai appelé l'action didactique. Alors, l'idée d'action didactique, je voudrais faire entendre ce terme de façon très, très simple, c'est-à-dire très première. L'action, c'est le fait que quelqu'un agit, et didactique, ça veut dire que ça concerne l'enseignement et l'apprentissage en général. Donc là, volontairement, je ne fais pas, dans le cadre de cet exposé, d'études sur, par exemple, qu'est-ce que peut être la notion d'action par rapport à la notion d'activité, ou par rapport à la notion de pratique, ou par rapport à d'autres notions. Ce que je pourrais dire tout de même, c'est que d'un point de vue de l'épistémologie qui sous-tend la notion d'action que je défends ici, on pourrait dire que c'est sans doute une notion très proche de celle d'activité, par exemple, au sens des soviétiques ou de Clos aujourd'hui ou d'autres, peut-être donc au sens de ce que tu dises, Marguerand. Et aussi, alors est-ce qu'il y a compatibilité entre les deux, de mon point de vue, oui, aussi au sens de la pratique. Pratique quand, par exemple, Bourdieu parle de théorie de la pratique ou d'esquisse d'une théorie de la pratique, avec cette idée, par exemple, que l'habitus, c'est l'institution du social dans les corps. Définition récente chez Bourdieu de l'habitus. Donc, action didactique, c'est ça que j'entends par action didactique. Alors, il y a deux dimensions particulières sur lesquelles je voudrais insister sur cette action didactique. La première action, la première dimension, c'est quelle est cette action conjointe, organiquement coopérative. Alors quand je dis organiquement coopérative, je ne fais pas allusion à une sorte de volonté prescriptive qui serait que l'action doit être coopérative. Pour moi, l'action est coopérative. Alors je vais prendre un exemple un peu paradigmatique que je reprendrai tout au long de l'exposé, qui est un exemple très, très simplissime, celui de la dictée classique. En plus, ça plaît à certains ministres, donc ça a des avantages. Donc, quand le professeur fait une dictée classique, eh bien, c'est une activité organiquement coopérative, dans le sens où, si l'élève ne prend pas la dictée, il ne peut pas y avoir de dictée, et si le professeur ne dicte pas, il ne peut pas y avoir de dictée non plus. Il y a une coopérativité qui est inscrite dans la tâche même, dans l'activité même, dans la situation même. Et ça, c'est un des traits fondamentaux, pour moi, de l'action didactique. Donc vous voyez que là, j'essaie de la voir, cette action didactique, un peu du point de vue de Sirius, comme quelqu'un qui regarderait, un anthropologue qui regarderait des actions d'enseignement. Qu'est-ce qui se passe, comment ça peut se concevoir? Un deuxième point, c'est que cette action, elle est centrée sur un objet qu'on pourrait dire épistémique. Et donc, finalement, cette action, on pourrait dire qu'elle réfère à une relation, puisqu'elle est organiquement coopérative, et une relation fondée sur un objet. C'est ce que j'appelle la relation didactique. Donc, il y a relation didactique, qui n'est pas la relation pédagogique, qui n'est pas simplement l'étude d'un savoir, mais l'étude d'une relation à travers un savoir. Le savoir étant, d'une certaine manière, l'objet transactionnel de la relation. Alors, objet transactionnel, évidemment, ça veut dire que je conçois les interactions didactiques, ce qu'on appelle les interactions didactiques en général, comme des transactions. Alors pourquoi ce terme ? Pour les raisons suivantes. Lorsqu'on parle de transactions, on peut voir les transactions en un double sens, je dirais le sens intrasubjectif, intersubjectif, pardon, et le sens intramondain. J'emprunte cette distinction-là à un linguiste, enfin un philosophe du langage qui s'appelle Denis Vernant, et qui travaillait l'idée d'interaction à travers celle de transaction. Alors, l'intersubjectif, c'est quoi ? C'est ce qui fait que dans une interaction, les locuteurs font un effort pour se reconnaître mutuellement comme locuteurs. Ou alors, dans une action, on dira, c'est ce qui fait que les acteurs font un effort pour se reconnaître mutuellement comme co-acteurs de la même action. Donc ça, c'est l'idée des aspects intersubjectifs de la relation didactique. Et puis, il y a les aspects intramondains, tout simplement, comme le nom l'indique, comme le nom ou l'adjectif l'indique, la relation est intramondaine parce qu'elle se passe dans un monde, dans une situation, et dès lors qu'on s'occupe ou qu'on s'intéresse à l'action située, à l'action en situation, on est forcé de s'intéresser à la situation de l'action. Et pour moi, s'intéresser à l'action en situation, c'est d'abord s'intéresser à la situation dans laquelle l'action se produit. Donc il y a cette idée-là d'intramondain et d'intersubjectif. Juste un mot pour préciser les références, d'autres références ou d'autres soubassements possibles. Un philosophe américain important, John Dewey, a beaucoup parlé de la notion de transaction, justement. Sans doute plutôt au second sens. Au sens donc d'intramondain, au sens d'action qui se fait dans une situation. Et donc, il y a cette référence-là, dans ce que je vais raconter, au pragmatisme de Dewey, d'une certaine manière, référence claire ou moins claire, mais elle existe. Alors, dernier point sur cette action didactique, j'ai dit que c'était une action centrée sur des objets, sur des savoirs. Donc, l'idée, c'est que, d'abord, il y a une conception dans ce travail générique du savoir. Alors, une conception générique du savoir, ça veut dire que, d'une certaine manière, on peut regarder comme des savoirs soit des choses très institutionnalisées, très savantes, entre guillemets, soit des choses situées au sein de sphères expertes, soit au contraire des choses très informelles. Mais l'idée, c'est que tout ça, d'une manière ou d'une autre, relève des savoirs. La deuxième idée, c'est qu'on peut se rendre sensible, quand on travaille sur la notion de savoir, au fait que les savoirs, dans la distinction de Rousseau, peuvent se concevoir soit comme des savoirs institutionnalisés, soit comme des connaissances, c'est-à-dire comme des savoirs qui sont convertis en moyens d'agir. Cette manière de penser en termes de savoir et connaissances, les connaissances étant des savoirs convertis en moyens d'agir, retrouve à peu près l'idée de Bourdieu aussi, de savoir pratique, de passer de savoir à des savoirs pratiques. Donc, la conception des savoirs que j'essaie de défendre ou de véhiculer, c'est une conception assez large, avec l'idée de générale que finalement la définition d'un savoir dans cette perspective, ça serait le savoir est une puissance d'agir. Et donc on va reconnaître différentes entités comme des savoirs précisément parce que ce sont des puissances d'agir. Donc je voudrais en dire maintenant un peu plus sur la notion de transaction et de contrat, en la plongeant dans la notion de contrat. Et donc, pour ça, décrire la notion de contrat didactique rapidement et montrer en quoi elle me permet de penser les aspects intersubjectifs de la relation, didactique. Alors, l'idée du contrat didactique, quand on lit les définitions anciennes de Rousseau, en gros, le contrat didactique, c'est un système d'attente qui est né, ce système d'attente, des répétitions maintes fois construites, maintes fois produites dans la classe. Ce système d'attente qui est né de répétition, il est à certains moments, je dirais quasi nécessairement, dans une situation didactique, il est en rupture, puisqu'on apprend. Donc on change ses habitudes. Et donc, il y a le contrat didactique doit être perçu dans ces différentes dialectiques. Alors, d'abord, l'idée, c'est que le contrat didactique, en tant que système d'attente, c'est forcément, il y a forcément une perspective communicationnelle. Il y a, je vais revoir ces points-là un petit peu tout de suite après, il y a une dialectique entre répétition-habitude et différence-rupture, et il y a, je le disais, une notion d'attente qui est centrale. Alors, première chose, l'idée qui est une description communicationnelle de la relation, enfin du contrat didactique dans une relation, je l'ai dit, l'action est conjointe, elle est organiquement coopérative, et puis elle est centrée sur un objet épistémique. Quand je dis qu'elle est centrée sur un objet épistémique, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle est centrée sur l'objet épistémique que le didacticien a en tête. Mais des gens dans une classe enseignent et apprennent. Alors, quoi, c'est une autre chose, mais ce quoi, c'est pour moi un objet épistémique. Deuxième point, il y a évidemment une sorte de dialectique entre répétition et différence, ou entre habitude et rupture, dans le contrat. Là aussi, si on essaie de caractériser, toujours de ce point de vue externe, la relation didactique, on voit bien qu'il y a, d'une certaine manière, une spécificité de cette relation, dans le fait que il y a forcément de la répétition, sans quoi il n'y a pas d'apprentissage, et il y a forcément, à un certain moment, des ruptures drastiques. Si l'on continue la caractérisation, on voit qu'il y a aussi une notion d'attente qui est absolument centrale. Alors, la notion d'attente qui est centrale dans le contrat didactique, elle touche l'idée de Marcel Mauss, qui dit dans un des textes, qui est tiré de son œuvre, c'est en fait une transcription d'une réunion. Il dit, un jour qu'il assiste à un exposé de François Simian, il dit finalement, ce que nous avons en commun, vous et moi, vous, François Simian, et lui, Marcel Mauss, c'est cette idée de place fondamentale que nous accordons à la notion d'attente. Et il dit, Mauss, dans la citation, il dit dans le texte là, « Je m'attends, c'est la nature fondamentale de tout acte collectif. » C'est cité de mémoire, hein, je pourrais éventuellement vous donner la référence précise, c'est dans les œuvres, tome 2, et c'est un texte qui réfère à une réunion produite en 1934. Donc, je m'attends, c'est la nature même de tout acte de nature collective. Donc, l'idée de la relation didactique, c'est bien cette idée qu'on a créé une sorte de système d'attente et les transactions vont être prises dans ce système d'attente. Si je reprends mon exemple un peu paradigmatique de la dictée, on voit très bien que lorsque le professeur fait une dictée, il y a bien un système d'attente très clair. Les élèves s'attendent à ce que le professeur fasse certaines choses et pas d'autres. Le professeur attend que les élèves fassent certaines choses et pas d'autres. Et dès lors qu'il y a un petit changement, il peut y avoir une rupture importante de contrat, comme disent les didacticiens. Je pourrais prendre l'exemple suivant. Imaginons qu'un professeur soit en train de faire une dictée, et puis ce professeur a l'habitude de dicter les liaisons, les amis. Et puis, tout d'un coup, il dit, tiens, je ne vais plus, à partir d'aujourd'hui, dicter les liaisons, sauf celles qui sont obligatoires, comme les amis. Donc, à ce moment-là, les élèves vont être mis dans une autre sorte de contrat didactique. Ils vont devoir mettre en œuvre un système d'action qui va être différent. Évidemment, ce n'est pas la même chose d'écrire sous la dictée quand on fait systématiquement toutes les liaisons ou quand on n'en fait aucune. Cette petite modification va provoquer une rupture de contrat, et donc dans le système des transactions que j'essaie de décrire, il va y avoir des modifications importantes. Donc je vais revenir là-dessus. Donc, troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est l'idée de modèle du jeu. Vous avez vu dans la petite présentation générale que je vous ai donnée, il y avait cette idée de jeu, et cette idée qu'on décrivait tout ceci, toutes ces actions sous la forme de jeu. Alors, je vais essayer de montrer dans la partie suivante de l'exposé, finalement, à quoi ça correspond. Donc, l'idée de jeu, d'abord, c'est que, finalement, c'est un modèle intéressant pour penser les relations didactiques, dans le sens où c'est un modèle qui est à la fois pertinent, me semble-t-il, d'un point de vue effectif et d'un point de vue affectif. Alors, d'un point de vue effectif, je veux dire, il y a dans le jeu une idée de pragmatique très claire, dans le sens où un jeu, on sait tout de suite si... Enfin, le but du jeu, c'est qu'on gagne ou on perd. Hein. Donc, il y a une espèce de clarté du jeu ou de clarté des interactions humaines dès lors qu'on les décrit comme des jeux. Puis il y a un aspect affectif au sens que on se prend au jeu ou on ne se prend pas au jeu. Et on peut décrire très souvent les interactions didactiques sous la forme de personnes qui se prennent ou qui ne se prennent pas au jeu. Donc, l'idée, c'est de décrire un jeu didactique particulier et d'essayer de voir en quoi, finalement, ce jeu didactique est un jeu. Alors, je ferai rapidement une petite remarque là, enfin une petite fable en quelque sorte, plus qu'une remarque, qui est la suivante. Vous considérez un jeu à deux joueurs. Vous avez un joueur A, qui est l'élève, et un joueur B, qui est le professeur. La nature du jeu didactique, c'est que finalement, le joueur A, l'élève, gagne au jeu, et le joueur B gagne si et seulement si le joueur A gagne. D'accord ? Donc le joueur B, c'est-à-dire le professeur, joue une sorte de jeu par procuration. Il ne peut prétendre gagner à son jeu, B, le professeur, que si A, l'élève, a lui-même gagné. En même temps, clause essentielle, l'élève est tenu d'observer une clause qu'on pourrait appeler proprio motu, de son propre mouvement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, effectivement, dans une interaction didactique, l'élève doit toujours gagner par lui-même, il doit toujours apprendre de lui-même. Quel que soit le type de contrat didactique, d'ailleurs, qu'il soit très ouvert, très constructiviste, entre guillemets, ou très fermé, in fine, le professeur doit toujours être raisonnablement sûr que c'est bien l'élève qui a appris, et pas lui qui a dit des choses impunément ou improprement à l'élève. Ce qui veut dire qu'il y a cette dimension d'évolution qui est centrale, qui a été mise en œuvre très tôt chez Brousseau, au sens où l'élève doit se faire le sujet de l'apprentissage. Il doit agir de soi-même, en quelque sorte. Hein. Et ça, quel que soit le type même de contrat didactique dans lequel on se trouve. Il doit jouer en première main, en quelque sorte. Si l'on considère ce type de réflexion-là, on explique très bien les effets communicationnels qui ont été mis en œuvre par Brousseau très tôt en termes d'effet topaze et d'effet Jourdain. Hein. L'effet topaze, c'est ce qui se passe lorsqu'on donne à un élève des indications pour qu'il puisse réussir la tâche, ou qu'il puisse simuler la réussite à la tâche indépendamment des connaissances mises en jeu. Et puis l'effet Jourdain, c'est quand on reconnaît improprement la production d'une connaissance dans un comportement qui ne la possède pas, cette connaissance. Donc on voit bien que si on est dans cette perspective que j'essaie de décrire sous forme de jeu de A et de B, il y a deux possibilités pour tricher avec la clause proprio motu, ou en tous les cas pour la facilité. C'est un, de donner à l'élève des indices pour qu'il fasse apparemment un mouvement de son propre mouvement, mais ça ne sera que leurre, ça c'est la première, l'effet topaze, ou alors, devant un comportement d'élève, on peut dire « oui, c'est bien ça, il a bien joué le jeu », alors que le jeu n'était pas celui qui devait être joué. Ça c'est l'effet Jourdain. Alors on voit bien que ceci, c'est une manière de commencer à penser ce que j'ai appelé les aspects intersubjectifs de la relation. Je vais essayer de continuer dans ce sens, avec, très rapidement, parce que là il faudrait passer beaucoup de temps pour être plus précis, puis il faudrait travailler sur des aspects empiriques, mais encore une fois, aujourd'hui, ça n'est pas mon but. Il y a donc une pragmatique du jeu didactique. Cette pragmatique du jeu didactique, elle peut être déplié sur les aspects suivants. Première idée, c'est cette idée de réticence didactique. Alors, j'utilise le terme de réticence didactique au sens vieilli du mot réticence, hein, et au sens anglais d'ailleurs, actuel toujours. Le sens vieilli du mot réticence, c'est on est réticent quand on cache quelque chose qu'on connaît, qu'on ne dit pas quelque chose qu'on connaît. Il suffit d'étudier un petit peu quelques interactions didactiques pour s'apercevoir que ça, c'est central dans la pragmatique didactique. Le professeur, par essence, ne dit pas tout ce qu'il sait. Et ça fait partie du jeu. Et c'est un peu vrai que personne ne dit tout ce qu'il sait, et heureusement. Mais dans le jeu didactique, cette notion-là est portée à l'extrême. Deuxième point, il y a l'idée de ce que j'ai appelé la valence perlocutoire des actes de discours didactique. Vous savez, Austin avait parlé des trois dimensions, locutoire, le sens véhiculé par le message, illocutoire, la manière qui accompagne le message, et puis perlocutoire, ce que fait faire le message. Donc on dit par exemple que la valence perlocutoire de ferme la porte, c'est que la personne à qui vous dites ça va se lever et va fermer la porte, effectivement ou pas. Donc cette valence perlocutoire, dans tout acte de langage, elle existe, mais elle est plus ou moins intense. Le propre même de la relation didactique, c'est que le professeur parle pour faire faire. Déjà Deleuze disait « le maître d'école donne des ordres ». C'est cette idée-là. Il parle pour faire faire. Et s'il parle pour faire faire, c'est parce qu'il ne peut pas tout dire aussi. Et parce qu'il attend des actes qui sont produits, que ce qu'il n'a pas dit soit produit dans les actes, ou soit dit par les actes d'une certaine manière. Troisième point de la pragmatique didactique, c'est le dialogisme, au sens de Bakhtin ou des continuateurs, au sens de ce qu'on appelle en linguistique de la polyphonie, c'est-à-dire le fait que quand on regarde d'un point de vue linguistique des énoncés de classe, des transcriptions de classe, on est frappé par le fait que sans arrêt, il y a de la polyphonie, c'est-à-dire que les énoncés se répètent du professeur à l'élève, des élèves aux élèves, des élèves aux professeurs, et comprendre les interactions didactiques, c'est donc comprendre ce dialogisme. Puis un dernier point, qui a été mis en évidence notamment à la suite de travaux de Carbat-Torrecchioni par Schubert-Léoni en didactique, l'idée de trilogue. Le trilogue, c'est l'idée que le professeur parle à une personne donnée, un élève par exemple, mais il parle rarement à cet élève en tant que tel. Quand il parle à cet élève, il parle sur l'arrière-plan de l'ensemble de la classe. Chose très, très connue quand on regarde fonctionner les classes en collectif. Et donc c'est ça, cette idée de trilogue qui caractérise là aussi les interactions didactiques. Donc l'idée que je veux défendre là, quand je parle de pragmatique du jeu didactique, c'est qu'en fait, si on étudie le jeu didactique d'un point de vue linguistique, on est bien obligé d'arriver à un certain nombre de caractéristiques très spécifiques des jeux didactiques. Quand je dis très spécifique, je ne veux pas dire qu'on ne trouve de la réticence que dans le jeu didactique. Par exemple, dans la relation médecin-malade, il y en a aussi. Mais la combinaison de ces traits me semble vraiment très spécifique du didactique. Et petite incise épistémologique et méthodologique, ce qui veut dire que si on fait de l'étude linguistique, de mon point de vue, des actes de discours linguistique, sans prendre en compte ces caractéristiques, on va, d'une certaine manière, vers des obstacles rédhibitoires. Ce qui est, de mon point de vue, une difficulté réelle pour les analyses linguistiques en didactique qui ne reconnaissent pas suffisamment la spécificité des interactions didactiques. Et pour finir, je ne parlerai pas beaucoup de ça aujourd'hui, mais pourtant ça joue un rôle très important, il y a évidemment une sémiose dans l'interaction didactique, c'est-à-dire qu'il y a une construction d'un certain rapport aux signes. On ne peut pas penser, par exemple, à l'enseignement des mathématiques ou de la physique sans voir que les signes sont partout présents et sont partout susceptibles d'être interprétés d'une façon donnée. Mais on regarderait l'éducation physique ou l'histoire et géographie, on aurait aussi des multiplicités de signes qui doivent être sans cesse interprétés et qui doivent être interprétés de la bonne façon. Donc il y a une sémiose qui se distribue dans les catégories précédentes là, c'est-à-dire que cette sémiose suppose en même temps suppose une réticence, c'est-à-dire on montre des signes aux élèves, le professeur donne à voir des signes aux élèves, mais il ne peut pas leur donner en même temps le mode d'emploi des signes. Il faut que les élèves parviennent à extraire des signes ce qu'ils doivent extraire. Donc il y a, et je pourrais faire la même analyse pour le reste. Pour poursuivre, je vois que je suis en train de prendre du retard, j'aurai combien de temps encore là, en gros? Donc, de en venir à la notion de milieu pour prendre un lien avec, pour mettre en lien avec celle de contrat. La notion de milieu, c'est une notion tirée de Brousseau au départ, et j'essaye avec d'autres de lui donner un sens un peu plus large, tout en conservant le sens initial de Brousseau. Alors, deux acceptions. La première idée, c'est que le milieu peut être construit, conçu comme une sorte de contexte cognitif, comme une sorte de système de signification naturalisé. Si vous voulez, ça sera ce qu'on trouve, par exemple, chez Wittgenstein, dans les continuations de Wittgenstein, chez Searle, par exemple, lorsqu'on parle de background, d'arrière-fond, d'arrière-plan. Toute relation fonctionne sur un arrière-fond, un arrière-plan, c'est-à-dire un système d'objets pour lesquels il y a des évidences partagées. Sans ce background, on ne peut pas communiquer, donc on ne peut pas ni apprendre, ni enseigner. Et puis, il y a un deuxième sens du mot milieu, sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est le milieu comme système antagoniste de l'action. C'est pour moi ce que j'appelle la révolution broussaldienne. Pour moi, là, il y a vraiment une révolution dans la conception de ce qu'est l'apprentissage, de ce qu'est l'enseignement. C'est-à-dire que, à certains moments, l'élève doit échapper à la relation au professeur pour se confronter, on pourrait dire d'une certaine manière, aux choses mêmes. Il y a une relation très forte entre, d'un côté, Rousseau, avec un R, et Brousseau. Au sens que Rousseau dit dans l'Émile, en substance, il faut toujours préférer l'enseignement par les choses à l'enseignement par les hommes. Et bien Brousseau, quand vous savez, vous connaissez peut-être cette situation parce qu'elle est connue en dehors de la didactique mathématique, mais par exemple, il demande à des élèves d'agrandir les pièces d'un puzzle de manière que une pièce qui a telle dimension fasse telle autre dimension. Et il met les élèves en situation de le faire, et il met les élèves en situation de le faire avec un vrai puzzle, telle qu'une dimension qui fasse 4 doit faire 7 dans la reproduction. Ce que font les élèves en général, c'est que de 4 à 7, on ajoute 3, donc ils ajoutent 3 à toutes les mesures. Évidemment, ça ne marche pas, puisque le raisonnement n'est pas proportionnel. Et les élèves constatent dans le milieu lui-même, lorsqu'ils essayent de remonter les pièces du puzzle, que ben, quand on ajoute plus 3, ça ne marche pas. Il y a donc en quelque sorte une réponse du milieu qui disqualifie, donc quand je dis les choses mêmes, qui disqualifient l'effort de l'élève. Alors, l'idée là, qui est sous-jacente, c'est que enseigner, c'est d'une certaine manière, à un certain moment, confronter les élèves à ce type de milieu antagoniste. Alors, on pourra dire, oui, mais ça marche très bien avec les mathématiques, parce que surtout quand ce sont des mathématiques qui sont de la physique du quotidien, comme ça, des mathématiques élémentaires. Mais par exemple, quand on a des systèmes formels complexes, ou alors dans des disciplines qui n'ont rien à voir avec les mathématiques, ça ne marche pas. Peut-être, mais l'idée, au-delà, il me semble que l'idée consiste à se dire qu'il y a toujours, à un certain moment, des choses qui résistent dans le milieu auquel l'élève est confronté. Si vous étudiez en lettres la différence entre le narrateur et l'auteur, à un certain moment, si vous écrivez quelque chose et que vous prêtez à un narrateur, je prends un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais que vous prêtez à un narrateur interne un point de vue omniscient, eh bien vous écrirez des bêtises en tant qu'écrivain ou en tant qu'apprenti écrivain. Donc il y a des choses qui résistent, et l'idée fondamentale de Brousseau, c'est, me semble-t-il, de rendre les élèves sensibles à ces choses qui résistent dans la réalité, pour qu'il s'adresse en quelque sorte aux choses qui résistent, plutôt qu'à ce que le maître peut dire des choses qui résistent. Donc c'est un peu ce rapport en première main, de première main, dont je disais un mot tout à l'heure. Alors, juste un point sur la philosophie générale de l'apprentissage que ça suppose. Aucune philosophie de l'apprentissage. C'est-à-dire que souvent, on s'est servi de ce qu'a fait Brousseau, par exemple, pour essayer de penser des situations constructivistes. Mais je pense que les systèmes que Brousseau a mis sur pied ne sont pas du tout à penser comme des situations qui doivent fonctionner dans les classes. Vous savez, l'idée de la didactique, pour Brousseau, au départ, ça devait s'appeler épistémologie expérimentale. Ça dit bien ce que ça veut dire. D'une certaine manière, les situations de Brousseau ne sont pas faites pour être dans les classes. Elles sont faites, de mon point de vue, pour faire réfléchir les chercheurs, les professeurs, éventuellement collectivement, quant à ce que peut être cette action d'enseigner et cette action d'apprendre. Donc, en tous les cas, c'est deux sens du mot milieu. Bon, je vais peut-être passer très rapidement là-dessus, puisque, effectivement, l'heure avance. Donc, je vais vous donner... Voilà, non, mais ça, c'est pas ça. Vue générale de la chose. J'ai essayé, dans ce que j'ai fait, là, de décrire le jeu didactique en général. Je voudrais en venir à une autre partie de mon exposé, qui est celle de jeu d'apprentissage. Ce que j'appelle un jeu d'apprentissage, c'est, à l'intérieur du jeu didactique, une partie, un sous-ensemble de ce jeu didactique, dont on peut avoir la mesure lorsqu'on regarde le fonctionnement des classes. On s'aperçoit qu'il y a des unités connexes et qui sont en même temps relativement repliées sur elles-mêmes. Et on peut concevoir les activités didactiques comme des jeux, comme des successions de jeux d'apprentissage. Je reprends mon exemple paradigmatique. Si on regarde, par exemple, notre histoire de dictée, imaginons, par exemple, que le professeur qui fait sa dictée, à un certain moment, il passe dans les rangs et puis il s'aperçoit qu'il y a beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop de fautes d'orthographe, comme on n'ose plus dire. Et donc, le professeur se dit, tiens, il arrête la classe et puis il dit, à partir de maintenant, vous allez avoir droit à un petit dictionnaire pour faire votre dictée. Admettons. Eh bien, ça, c'est ce que j'appellerais dans mon jargon un changement de jeu. Et quand on regardera le transcrit de la séance ou quand on regardera la vidéo, on aura une unité qui va se clore et puis qui va se clôturer et qui va donner naissance à une autre unité. On ne sera plus dans le jeu de la dictée classique, mais on sera dans le jeu de la dictée avec dictionnaire. Alors, évidemment, pour que les choses soient plus pertinente, il faudrait prendre des exemples empiriques réels, réalistes, étudiés, mais ça prendrait trop de temps. Donc l'idée, c'est que, c'est ce que j'appelle cette unité signifiante de l'action, on peut déterminer, percevoir dans l'action des jeux successifs, et avec tout le vocabulaire dont j'ai commencé à parler un petit peu, les enjeux. Un jeu, c'est un enjeu. L'enjeu, quand on fait une dictée avec un dictionnaire, change un petit peu. Par exemple, il faut savoir utiliser le dictionnaire, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir utiliser le dictionnaire pour faire une dictée. Ce qui n'est pas du tout la même façon que d'utiliser le dictionnaire si on n'a pas à faire une dictée. Par exemple, il faut s'arrêter évidemment à l'orthographe des mots, mais pas à leur définition, etc. On voit à peu près ce dont il s'agit. Et puis, il y a tout ce vocabulaire bourdieusien qui me paraît tout à fait intéressant dans l'idée de jeu. C'est l'idée d'illusio, d'abord. Illusio, chez Bourdieu, ça veut dire c'est de ludens, ludique. L'illusio, c'est la caractéristique de celui qui se prend au jeu. Donc, rapport avec la dévolution. Le professeur, c'est celui qui fait en sorte que les élèves tentent de se prendre au jeu. Enfin, que les élèves se prennent au jeu. Plus exactement, ils tentent de faire en sorte que les élèves se prennent au jeu. Et puis, il y a cette idée de chant aussi. Si vous êtes un peu intéressé ou familier par Bourdieu, il y a cette idée de chant avec un capital qui constitue un chant, etc. Mais je laisse ça. Dans le jeu, il y a cette idée de dialectique entre le sujet institutionnel et la personne. Et puis le jeu, je vais laisser de côté. Et puis le jeu peut se caractériser par un milieu et un contrat donné. Enfin, et ça c'est peut-être d'un point de vue méthodologique l'aspect intéressant, c'est que finalement le jeu, comme je disais tout à l'heure, incite à voir des unités connexes qui prennent leur sens les unes par rapport aux autres et qui, dont l'appréhension permet de caractériser le système d'action. Finalement, la métaphore que je propose là pour faire appréhender les situations de classe, c'est celle du théâtre. Hein. Il y a des actes, il y a des scènes. Et puis à l'intérieur, les actes et les scènes étant, alors très concrètement, ça veut dire quand on fait des transcripts de pratique, on peut voir des grandes divisions, on peut voir des subdivisions à l'intérieur de ces divisions que j'appelle des jeux ou des scènes. Jeux et scènes, c'est la même chose. Et puis, à l'intérieur des jeux, il y a de temps à autre ce qu'on pourrait appeler des épisodes. C'est-à-dire, il se passe un événement didactique. Et donc, le fait d'avoir analysé la structure générale en grande phase, en acte, si vous voulez, puis en jeu, ça permet de mettre le doigt sur l'événement qui surgit à un moment donné, qui peut être, par exemple, le fait dans le paradigme que j'ai choisi, là, le fait qu'un élève dira que lui, il ne peut pas se servir de dictionnaire ou qu'il ne veut pas se servir de dictionnaire ou qu'il se servira du dictionnaire, mais il fera semblant de se servir du dictionnaire, etc., etc. Et donc là, il y aura un événement didactique perçu ou non par le professeur, perçu ou non par le didacticien, en fonction du type de regard qu'on met en œuvre. Pour continuer la caractérisation de ces jeux, en fait, on a fabriqué deux systèmes d'analyse. Donc on a des jeux, on les analyse en termes de contrat et de milieu, et puis viennent ensuite, pour nous donner des instruments d'observation, des instruments de catégorisation, des outils de catégorisation, un quadruplé et un triplé. Alors je vais vous faire une visite guidée rapide de la suite. À partir du moment où il y a un jeu, on postule que le professeur doit mettre en œuvre ces grandes dimensions-là. C'est-à-dire qu'il doit définir le jeu, il doit faire en sorte que les élèves sachent à quel jeu ils vont jouer. Alors, j'entends bien que là, je suis en train de parler des jeux d'apprentissage, je parle du jeu didactique dans son ensemble, évidemment. Il ne faut pas redéfinir le jeu didactique chaque fois, mais on va aujourd'hui faire une dictée, alors le simple fait de dire on va faire une dictée, en général, ça suffit à définir le jeu. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très connu par les élèves. Mais souvent, d'ailleurs, quand on voit fonctionner dans les classes, on s'aperçoit qu'il y a déjà des grandes difficultés à certains moments pour définir le jeu. Pour que le professeur et les élèves travaillent ensemble sur une forme partagée d'activité. La deuxième idée, c'est l'idée de dévoluer le jeu, hein, de faire en sorte que les élèves se rendent responsables de jouer le jeu tel que le professeur veut qu'il le joue. La troisième idée, c'est réguler le jeu. Réguler le jeu, c'est l'action du professeur qui vise à faire en sorte que l'élève produise des stratégies gagnantes au jeu. En gros, que l'élève parvienne à faire ce qu'il doit faire. Notre professeur de dictée qui fait un tour dans la classe et qui s'aperçoit que, par exemple, les élèves font une erreur systématique, peut choisir de réguler l'activité des élèves en disant, enfin avec toute une gamme de comportements à sa disposition. Et puis enfin, il y a l'idée de institutionnaliser les résultats du jeu, c'est-à-dire l'idée, il faut entendre institutionnaliser au sens fort, on pourrait dire instituer, on pourrait dire que le professeur, dans l'institutionnalisation, fabrique de l'institution. L'idée, c'est donc bien qu'il fabrique de l'institution, pourquoi ? Parce qu'il il fait reconnaître les usages communs. C'est ça l'institutionnalisation. Hein. Il fait reconnaître les usages communs à la classe, et puis il montre à la classe que ces usages communs ont un sens en dehors de la classe. Et donc ça, tout ça fait partie du jeu. Bon, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais enfin, c'est un des systèmes de descripteurs que j'utilise, et puis que nous utilisons à certains. Et puis il y a un autre système qui est ce que j'appelle un triplé, avec le triplé de Genèse. Lorsqu'on regarde l'avancée du savoir dans une classe, le fonctionnement du savoir dans une classe, on s'aperçoit qu'on peut regarder les choses sous trois points de vue différents, qui sont parallèles à ceux que je viens d'indiquer. Le premier point de vue est celui de la mésogénèse, c'est-à-dire l'idée qu'on va fabriquer du milieu, hein, genèse du milieu. Imaginons par exemple que l'exemple que j'ai pris, le professeur qui dit « vous allez prendre votre dictionnaire », il introduit dans le milieu un objet, le dictionnaire, puis il introduit des manières de faire. Par exemple, l'idée que pour faire vite sur un dictionnaire, on va regarder simplement les deux mots d'en haut. Peut-être va-t-il dire ça aux élèves. Souvenez-vous, dans le dictionnaire, pour aller vite, il suffit de regarder les mots qui sont en haut de la page. Ça nous fait gagner du temps. Ah, alors, ça va être un milieu qui va être construit par le professeur ou par les élèves, si un élève lève le doigt et dit, bon, etc. Ou lève le doigt ou pas. Donc ça, c'est la mésogénèse. La question, c'est comment quoi ? C'est-à-dire, comment l'objet épistémique se fabrique-t-il dans la classe ? Voilà pourquoi voilà le sens de l'expression barbare, comment quoi ? Il y a l'idée de comment, quand ? C'est-à-dire, c'est la notion de temps didactique, hein, qu'on doit. Enfin, toutes ces notions, au départ, ont été fabriquées par Chevalard, hein, puis ensuite ont été reproduites et reconstruites par nous. Donc, chronogénèse, c'est l'idée que le temps défile et que le professeur doit faire en sorte de faire défiler le temps, c'est-à-dire de produire de nouveaux objets de savoir sur la scène didactique, le professeur ou les élèves. Encore une fois, c'est une action conjointe et c'est bien souvent les élèves qui font, d'une manière ou d'une autre, avancer le temps. Et enfin, la topogénèse, c'est la genèse des lieux, hein, topos, topoi, avec l'idée que, finalement, on va se poser la question de qui fait quoi dans la classe. Hein, c'est-à-dire, par exemple, une signification a été introduite dans la classe, qui l'a introduite ? Alors, est-ce que c'est le professeur ? Est-ce que c'est les élèves ? Est-ce que c'est un élève ? Est-ce que c'est un collectif d'élèves ? Et évidemment, on peut mélanger, enfin, entrelacer les trois systèmes de catégories pour voir pour tenter de décrire ce qui se passe dans une classe. Donc, ce triplé fonctionne comme, finalement, d'une manière générale, des manières de décrire et répond en même temps à des fonctions théoriques, didactiques. Ces notions permettent de caractériser les contre-milieux. Et puis, on en arrive, bien entendu, à l'idée d'une utilisation conjointe de l'ensemble de ces notions. On peut, en général, montrer que telle description qui se faisait du point de vue didactique, du point de vue topogénétique, par exemple, en se posant la question de qui fait quoi dans la classe, peut être également vue du point de vue chronogénétique, c'est-à-dire comment se construit l'avancée du temps dans la classe. Et il y a des croisements multiples à effectuer entre les deux, entre les trois types de notions. Ce qui veut dire que, pour revenir à mon début d'exposé, ce dont je vous ai parlé là, c'est en fait cet effort de construction de descripteurs à partir du moment où on accepte le modèle du jeu didactique, même si on ne l'accepte pas d'ailleurs, c'est pas forcément lié, mais enfin j'essaie moi de le faire jouer en lien avec donc cette idée de quadruplé, triplé et doublé en quelque sorte, donc un système de notions qui permet de définir ce qui se passe in situ dans la classe. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous l'avez vu, évidemment, si on veut continuer à comprendre ce qui se passe dans la classe, il faut qu'on puisse parler de la construction du jeu, hein, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on n'a pas abordé la manière dont le professeur préparait de part de vers lui le fonctionnement de la classe. Et puis, il faut aussi voir les déterminations qui pèsent sur le travail d'une manière générale. Alors là, par exemple, la perspective ergonomique est particulièrement utile ici, mais ailleurs aussi sans doute, avec cette idée que l'action, chose sur laquelle j'insisterai pour terminer sur ce point, et sans doute mon exposé, l'action correspond de la part du professeur à ce que j'ai appelé une épistémologie pratique. L'épistémologie je l'entends là au sens classique en anglais, en tous les cas chez les anglo-saxons, de théorie de la connaissance. Et l'idée, c'est que finalement, on s'aperçoit que pour comprendre, finalement, j'ai passé mon exposé sur la première partie, faire jouer le jeu, mais j'aurais tendance à penser aujourd'hui que il faut certes des systèmes de catégories robustes et pertinents pour décrire ce qui se passe in situ, mais un des enjeux majeurs de la recherche aujourd'hui consiste à produire des systèmes de catégories pertinents qui correspondent aux strates les plus élevées, à la strate intermédiaire et puis à la strate la plus haute, ce que j'ai appelé les déterminations du jeu. Avec cette idée que donc je reviens à l'épistémologie pratique. L'épistémologie pratique, c'est la théorie de la connaissance que le professeur a à sa disposition. Et cette théorie de la connaissance, j'étais en train de dire ceci, donc on s'aperçoit que c'est ce qui détermine finalement beaucoup plus que bien d'autres choses, les choses qui se font effectivement dans la classe. Et cette théorie de la connaissance, c'est une théorie de la connaissance, mais c'est aussi une théorie de la manière dont la connaissance, c'est aussi une théorie de l'apprentissage par exemple, et c'est aussi une théorie de l'enseignement. Et tout ça est extrêmement lié. Et tout ça est extrêmement pratique. C'est à peu près l'idéologie au sens de Marx, c'est-à-dire c'est une fabrication de la pratique. C'est pas une conception, comment dire, kantienne des représentations, on aurait des représentations dans la tête qui nous agiraient. Non, il y a un travail tout à fait profond et souterrain de la pratique au système de représentation et des systèmes de représentation à la pratique, les uns et les autres se déterminant mutuellement. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails pour la dernière partie de l'exposé, donc je vais simplement vous la donner à voir, c'est le cas de le dire. L'idée, c'est que il y a deux idées. Ce que je viens de vous raconter là, évidemment, je ne suis pas dans la position de dire on doit penser que la pratique, c'est ça. Ce que je viens de vous exprimer, c'est finalement un système de catégories qui vaut ce qui vaut, mais qui est censé justement faire système et qui est censé représenter un voir comme. Voir comme, l'expression est de Wittgenstein. Vous savez, il y avait cette fameuse histoire du canard-lapin, là, hein, l'illusion d'optique. On voit le canard-lapin, certains le voient comme un canard, d'autres comme un lapin, et on ne peut pas le voir à la fois comme un canard et comme un lapin. Eh bien, il y a de longues digressions là-dessus dans la littérature anglo-saxonne, donc je passerai les détails. Mais l'idée, c'est bien qu'on produit des catégories qui sont des voir-comme. Et évidemment, ces voir-comme ne sont que des voir-comme. Hein, je ne prétends pas qu'il y a des jeux dans les classes et que les élèves jouent et que le professeur joue. Non, évidemment, ce sont des catégories. Je laisse ça dans l'arrière-plan, parce que je n'ai pas le temps de le développer. Et juste pour terminer, ce sur quoi je voudrais insister, c'est l'idée que les descriptions qu'on produit avec ces descripteurs sont plus ou moins denses. Description dense, c'est une expression de l'anthropologue américain Geertz, Clifford Geertz, et qui avait dans les années 1962, je crois, produit un texte célèbre sur justement la description dense, thick, épaisse, thick description, opposé à thin description. Et je pense qu'il y a beaucoup à tirer de ce que j'ai écrit ici, qui n'est pas de moi d'ailleurs, nécessité d'une pluralité de descriptions. Je crois qu'en sciences sociales, nous avons beaucoup à penser le fait de produire une vue synoptique de divers systèmes de description. Je pense que nous avons affaire à des réalités si complexes, si riches, qui peuvent se voir de tellement de façons différentes selon, par exemple, qu'on les pense avec, qu'on la pense cette réalité, avec la sémantique familière de l'action, c'est-à-dire la sémantique de ceux qui sont habitués à agir dans une action déterminée, ou selon le langage des modèles, par exemple, en voilà un que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, il y a une telle complexité qu'il y a nécessité de pluralité de description, et c'est aussi une idée qu'on doit à Wittgenstein, ça, il disait, l'anthropologie, finalement, avant tout, ce dont il doit se soucier l'anthropologue, c'est de produire une vue synoptique, c'est-à-dire produire, donner à voir l'ensemble d'un système. Mais donner à voir l'ensemble d'un système, ça suppose se donner des moyens pluriels de description. on aborde là des questions méthodologiques et épistémologiques très, très liées. Et donc c'est cela sur quoi je voudrais conclure, l'idée que on puisse construire ces moyens pluriels de description en étant bien conscient, peut-être qu'on pourra avoir une discussion sur ce thème éventuellement, que on peut à la fois maintenir l'idée de coupure épistémologique entre ce que dit le praticien de la pratique et ce que dit le chercheur de la pratique, et en même temps faire l'effort de construire une forme de traduction entre ce que dit le chercheur de la pratique et ce que dit le praticien de sa propre activité. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter ici, en m'excusant du temps passé. Merci.